Faut-il que je dise toutes les vérités? Les gens que j'aime, je les aime parce qu'ils sont tous pleins d'illusions sur la vie. Alors que la vie, notre seule promesse, c'est la mort. Je vois les futurs morts dans les vivants qui sont devant moi. Je les vois pas, mais je le sais. Tristesse, non, franchement. Hein. S'il y en a un qui remercie la vie, c'est moi, quoi. J'ai 17 ans de solitude absolue. Quand je dis solitude. C'est un cube de béton, 9 mètres carrés, quoi, où tu vois pas le ciel en général, tu vois rien. T'es enfermé dans le cube de béton, comme ça, 17 ans, comme ça. Et sans... dont à peu près 16 ans, quoi, tant que je m'y fasse, vide. C'est-à-dire vide parce que... vide comme la cellule d'un moine. Et vraiment ça, en plus, tu vois. Parce que chaque chose qui pouvait me distraire de ce que j'avais à faire était un péché pour moi, parce que... qu'est-ce qui pouvait compter plus que reprendre ma liberté? Lire un livre? Écouter une émission à la radio? Non. Je vais pas échanger ma liberté contre ça, même. Je vais garder ma douleur intacte. Quand tu restes des années comme ça dans le vide et dans la solitude et sans parler, puisqu'en définitive, je voyais personne, et que je parlais pas avec les souriants qui étaient là pour m'enfermer, et éventuellement plus. Tiens, écoute. Ça s'appelle du silence. 17 ans. Tu penses. Et t'apprends les choses par tout ce qui te manque. Il te manque quelque chose, je te parle pas qu'il manque du café ou une connerie, ça. C'est rien, ça. Mais il te manque des choses, simplement toucher quelqu'un. Tu vois. Là, t'as que les murs, ils sont froids, tu restes comme ça des années. Tu apprends ce qui te manque. Tu apprends les choses, tu viens à des choses essentielles, tu vois, que dans le quotidien, on efface avec l'habitude, tu vois. Mais quand tu les as pas, tu sais que c'est ça qui te manque, quand tu les as pas, sur des mois, des années. Moi, j'ai appris les choses comme ça, quoi, par le manque. Et ça te sculpte bien, tu vois. En prison, les gens ne parlent que de prison. Avec moi, en prison, tu parlais pas de prison. En prison, on y est. C'est pas, on va en parler dans la merde, tu vas pas me parler de l'odeur de la merde, on y est, tu vois. En prison, je pensais pas prison. Je m'arrangeais pour ne pas fonctionner comme on fonctionne en prison. C'est-à-dire, un maton, il dit ça, il fait ça, en gros, il appuie sur un bouton, l'autre, il lève la main, quoi. Comme un mannequin, quoi, tu vois. Non. Fonctionner normalement, détaché en fonction de mon objectif, tu vois. Toujours pareil, quoi. D'une certaine façon, comme pour les évasions, mais d'une autre façon. Mais non, jamais. L'hygiène mentale, quoi. Pas garder la taupe dans la tête, Mettre des bonnes choses dans la tête. Le jour où ton ennemi a plus d'importance que toi, t'es un homme mort. Il a gagné. Tu comprends? Même si tu es capable de mourir pour le tuer.
Et maintenant, t'as l'impression de renaître, ou de revivre, ou de renaître.
De naître,
Un beau bébé quand même.
Merci, mon cousin.
Tu fais un beau bébé quand même.
Non, de naître, vraiment, c'est pas con ce que tu dis. Hein.
De naître, oui.
J'ai l'impression que j'ai pas de passé. Mais vraiment, c'est bizarre. Tu gardes les bonnes choses et t'avances comme ça. Si tu gardes les mauvaises choses en toi, atonique, c'est tout. Et c'est l'erreur que j'ai commise dans la première période. C'était ça. Ouais.
Dans le quartier Schmitt, tout le monde adorait Michel. Pourquoi? Il n'y avait pas de vermine dans le quartier. C'était nous.
C'était nous, la vermine. Sorti 10h du soir, il n'y avait plus rien. Nous, on avait 17 ans. Envie de se bouger les couilles, quoi. Je prenais des voitures pour aller chercher les poulets dans la ville pour s'amuser, quoi. Et les semer, quoi, de préférence. Après, plus ou moins des accidents, s'éclater la gueule.
Vu qu'on était des très mauvais en conduite, évidemment, on savait pas conduire. On piquait les maillots, on savait pas conduire.
Alors, au début. Mais c'était un peu ça, quoi. C'était casser l'ennui. casser le non-sens du jour.
C'est vrai qu'il n'y avait rien.
Casser la dynamique de vie qui t'emmenait tout droit à l'usine, toi. Casser le chemin qui était celui de nos pères.
La première raison, en fait, pour laquelle tu vas aller en prison, c'est un vol de voiture. Toi, ce que tu appelles un emprunt, puisqu'en fait, tu les remettais en place. Ouais. Et pour ça, en fait, tu vas subir une condamnation très lourde, puisque tu vas prendre 30 mois et 5 ans d'interdiction de séjour.
Ben, j'étais jamais sorti du département, à part pour Paris, pour les barricades, c'est tout. J'ai jamais sorti du département. Sauf avec Zabed, parfois, la voiture nous emmenait un peu au-delà du département, mais jamais très loin. Mmh. Et je me suis retrouvé à faire ces 30 mois de prison mal, très mal, dans la mesure où... premier amour, blessé, voilà.
Est-ce que tu as l'impression que si tu ne t'étais pas fait choper par la police, tu aurais eu la vie que t'as ?
Ça m'a complètement guéri. Je veux dire, le fait de... C'est pas... Oui, si je ne m'étais pas fait choper, ça veut dire s'il n'y avait pas eu la trahison amoureuse derrière, avec en plus un poulet, quoi. Et s'il n'y avait pas eu en plus l'expérience des 30 mois très vécue de façon très dure. Hein. Et la vie aurait probablement pu tourner autrement, parce que j'étais pas pire que tous les autres petits mecs de ma région avec qui j'étais, qui aujourd'hui ont des vies normales et ont eu des parcours normaux, tu vois. Entre-temps, ça n'a certainement pas empêché de faire un petit cambriolage à droite, à gauche, des petites choses comme ça, bon, hein. Mais ça n'a pas pris la dimension que ça a pris là, quoi. Mmh. Je serais rentré... avec le temps, quoi, dans l'ordre des choses, quoi. J'aurais épousé une fille de la région et puis... Je serais terminé comme ça, quoi. Je serais tranquille.
T'as appris quoi de ce premier séjour en prison ?
J'en étais arrivé à un point où je considérais ça un peu comme l'ENA, quoi. Je me suis dit, bon, ben, je vais passer encore 2 ans, là. En 2 ans, je ferai les connaissances nécessaires. Je considérais ça vraiment comme... Et en sortant, en gros, j'aurai tous les brevets qu'il faut, quoi, tu vois. Un peu comme des études. J'avais une idée un peu... complètement idéalisé, quoi, de ce qu'était un malfrat, tu vois. Le mot central, pour moi, c'était un mot... genre, c'est l'ENA, quoi. Hein. Tu vois, c'était ça, dans ma tête, un peu immature. Hein. La justice, toutes ces choses-là, pour moi, ça n'existait pas, quoi. C'était une vaste fumisterie, quoi, cette histoire de justice. Il y a les gens qui commandent la société, et il y a les pauvres gens en dessous. Moi, je faisais partie des pauvres gens. C'est-à-dire les gens qui n'avaient aucun pouvoir, rien, etc. Et j'étais qu'un fils de rien.
Après ce premier séjour en prison, tu achètes une voiture, tu veux revoir Zabed qui t'a trahi. Sauf que là, tu tombes en panne.
Et la seule voiture qui arrive, c'est une voiture de police, quoi. Et les mecs, me demandent les papiers.
Pas de chance.
Vraiment pas de chance, toi. J'ai pas de permis, c'est tout. J'ai pas d'assurance, c'est tout. Mais rien que de voir les poulets... Rien de voir l'uniforme, toi. Ouais, chat chaudé, craint l'eau froide, en gros. Hein. J'avais goûté une fois. Franchement, puis franchement, il faisait trop beau, quoi. Même s'il pleuvait là, c'était l'été, je venais d'en passer de 30 mois derrière les barreaux. Franchement, j'allais pas perdre l'été, quoi. Pour un permis, c'était rien, toi, mais dans ma tête, considérant l'expérience que j'avais eue juste avant de la police, de la justice et compagnie, j'ai pas envie de m'attarder, quoi. Et voilà, puis je suis parti en courant à travers les champs, j'étais plongé dans la Saône, quoi. J'ai nagé, nagé, nagé. C'était au bord, ils ne venaient pas dans l'eau. Mais en fait, ils ont appelé les autres, quoi. Et avant que j'arrive de l'autre côté, ben, à l'autre côté, il y avait plein de camionnettes de gendarmes. Voilà. Ils m'ont mis à la prison de Mâcon. Je m'évade simplement. Hein. Je vais repérer un truc au départ. Je m'évade simplement, quoi. Par malice, comme on peut dire, tu vois. Puis j'ai disparu. Je suis revenu dans le seul coin que je connaissais, quoi. Par ici, dans la Marne. Et puis un soir, on était fait un petit cambriolage. Besoin d'un peu d'argent, je me planquais. On était fait un petit cambriolage, on n'a rien pris. J'avais vu le film Adieu l'ami avec Alain Delon. Il y avait un coffre dans la petite usine où on était là. J'ai passé au moins 2 heures devant. À faire comme dans le film. Hein. J'étais un gamin. On est reparti et 48 heures après, je me suis fait arrêter. Quoi. Je me suis fait arrêter, je me suis retrouvé à la prison de Chalon. réussir à s'arracher d'une prison et tout ce que ça représentait pour moi, la prison, c'était vraiment une grande exaltation. Il y avait quelque chose de franchement jouissif. En tout cas pour moi. Voilà. Ou pour le jeune mec un peu exalté que j'étais. Oui, il y avait quelque chose de jouissif, franchement. Ben oui. Ben oui. Et là, j'ai su que, quoi qu'il vienne, je m'évaderais encore. J'étais dans mon rôle, la prison, je m'évadais. Parce que pour moi, la prison, c'était ça, on s'évade. La prison, c'était fait pour ça, vraiment, pour moi. C'était... Une fois, j'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit ça, mais j'aurais pas été étonné, à ce moment-là, c'est vrai, de le dictionnaire et trouver prison, endroit d'où il faut s'évader, quoi. Je fonctionnais vraiment comme ça.
Un mois seulement après cette évasion, tu vas te faire arrêter. Et c'est à l'occasion de cette nouvelle incarcération que tu vas faire la connaissance de Gilles, qui est le frère de Nadine, qui deviendra plus tard ta femme. En quoi c'était ton frère d'armes ?
Il fonctionnait pareil. Il avait un bricoleur. Un mec qui avait bien bricolé. Un casseur. Je l'avais croisé lors de ma première... Dans la cavale, la première. Je l'avais croisé. Il ouvrait son sac de sport. Dedans, il y avait un petit calibre. Je n'avais jamais vu d'armes vraies, moi, sauf celle des policiers, quoi. Et un petit canoncier. Perruque, machin, truc, etc., quoi. Et il m'a dit, il m'avait dit, loin, t'as déjà braqué ? Et ça me reste, ça me reste. C'est ce que j'ai répondu. J'ai répondu, non, je mets ça à faire. Voilà. C'est la première fois que je voyais un truc plus ou moins organisé, quoi. Ouais. Et puis, comme quoi le monde est petit, on s'est retrouvés ensemble. Et là, on est passé à l'action ensemble, quoi. Mais lui voulait pas s'évader. Il voulait pas s'évader, puisqu'il terminait sa peine, il ne restait que quelques mois, mais il était avec mon cellule. Mais on a tout fait, tout partagé, quoi.
Comment tu t'es évadé cette fois-ci ?
Tiens, mets-moi un crayon. Ça, c'est la clé des cellules de Fresnes.
Comment tu arrives à dire ces deux ennemis ? Parce que tu les as jamais eu dans tes mains, la clé.
Si.
Comment tu les as dans ta main ?
Je me suis promené pendant des mois avec un bout de babybel dans la main. Et l'objectif, c'était de prendre l'empreinte d'une clé, la clé de la cellule, et d'une autre clé, la clé de la promenade. Tu vois. Et les matons marchaient avec les trousseaux de clé au bout de la main. Et donc, une fois que tu l'as identifié, la clé de cellule, tu vois, le maton ouvre la porte une fois, tu jettes un œil, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au final, la clé s'inscrit dans ta tête, quoi. Tu la repères tout de suite dans son trousseau, toi. Bon. Tu bouscules le maton un peu comme un pickpocket, toi. Tu bouscules le maton, voilà, la clé. Tu retournes en cellule vide parce que sur le babybel et compagnie, ça se déforme, toi, avec la chaleur. Tac, tac, tu mets ça dans ta petite boîte, puis après tu fais tes mesures, etc. Mais c'est du travail, quoi. Ça, pour avoir un truc comme ça, ça demande des semaines, tu vois. Tu as une idée, tu travailles dessus, chercher, comment avoir la clé. C'est ça la bonne question, comment avoir la clé.
Tu vas te faire arrêter un mois après cette évasion. Je voulais qu'on revienne sur un lien d'amitié... Ce lien d'amitié avec Gilles, tu dis à cette époque que vous étiez plus des rebelles anards que des truands. C'est quoi la différence ?
Un truand a un côté presque institutionnel pour moi. Non, c'est trop proche des poulets pour moi. Enfin, dans le sens où ça peut paraître bizarre. Hein. C'est trop proche du système. C'était trop proche du système. Nous, c'était complètement hors système.
Dans les rêves qui ne s'étaient pas accomplis de ton enfance, et que t'avais manqué un frère.
Mais je sais. Mais Gilles, ça a toujours été... Ouais, c'est ça. Mais le frère que j'ai pas eu, quoi. Voilà.
Et un frère qui va te rattacher à ce milieu-là, en termes de fraternité.
Ou fraternité,
de
ouais.
Grand-banditisme.
Ouais. Et de famille.
Et de famille.
Et de famille, ouais. Parce que, si ce n'est la vie que je reconstruis actuellement, ma seule vraie famille, je veux dire, celle où les liens ont une certaine densité, celle où on sait qui est qui, celle où on sait qu'on peut compter sur l'un, sur l'autre, où on est un. Ok, pour moi, une famille, c'est ça. Mais la seule vraie famille que j'ai jamais trouvée, elle était là. Mais t'étais vachement gentil en petites conneries accumulées. Et je me suis retrouvé avec 25 ans de prison sur la tête quand même, toi. J'avais jamais touché une arme. J'avais jamais fait de mal à personne. Ça commençait à faire beaucoup. Et comme... bien évidemment, les directeurs de prison n'aimaient pas trop me voir arriver dans la mesure où je m'évadais sans arrêt, quoi. Donc je me suis retrouvé en quartier de haute surveillance. Là, j'ai compris que j'avais comme un problème. C'était pas du tout pareil pour s'évader, toi.
Quand tu es en QHS, t'as quel âge ?
J'y entre à 24 ans. Bah, tu découvres la cellule. La cellule, c'est franchement un cube de béton, du jaune, du sale au plafond, le sale plafond inclus, quoi. Avec la lumière qui est en 24 heures dedans, c'est pas un jaune qui absorbe la lumière, c'est un jaune qui reflète la lumière. Puis t'as le premier soir. T'attends que la lumière s'éteigne pour dormir. Elle s'éteint pas, la lumière. Elle va rester toute la nuit, la lumière. Elle s'éteindra jamais, la lumière. T'as les moustiques qui rentrent, quoi. Sans parler de ça, tu dors jamais vraiment. Enfin, moi, je dormais pas. Vraiment, toujours fatigué. Le plus prégnant, c'est la solitude, le silence et l'immobilité de toute chose. Puisque il n'y a rien qui bouge autour de toi. Il n'y a qu'une chose qui bouge autour de toi. Les matons.
À quel moment t'as...
Vraiment perdu toute innocence.
Ouais. Est-ce que c'était à cette période-là ou est-ce que c'est encore après ?
Non, c'est la période où j'ai réalisé la merde dans laquelle j'ai eu ma vie. Vraiment. Donc, 25 ans de prison à faire parce que t'as un peu trop joué, quoi. Dans les conditions que je viens de te décrire, de détention, de la solitude, là. L'impossibilité de t'évader et la solitude. Et cette prise de conscience-là, d'un seul coup, la prison devient très, très, très lourde, toi, puisque tu ne peux pas t'évader. Si tu as une infime possibilité que tu travailles dessus, là, tu vois, un an, deux ans, c'est pas un problème. Mais là, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Je suis tourné dans tous les sens, dans ma tête, là-dedans. Alors, en tout cas, en fonction de mes possibilités, il n'y avait rien, quoi. Et là, tu comprends que tu as comme un problème, quand même. Là, tu commences à te poser des questions.
C'est et là, à ce moment-là comprends. Que tu perds ton innocence.
Non. C'est ensuite, au fil des jours. Quand tu décides que... Quand t'as trop envie de crever, quoi. Quand t'as trop envie de crever, parce que tu peux pas, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas être réduit à ça. Ta vie peut pas être réduite à ça. Tu mérites pas ça. En tout cas, c'est ce que je ressentais, moi. Mais tu le vis pas, tu le penses pas comme ça au passage entre le petit truc, non, non. C'est là, en permanence, en permanence, en permanence, c'est dans le poids de chaque instant, dans le vide, dans le non-sens des jours. Voilà, t'as à peu près autant de vie qu'une mouche que tu mets dans un bocal et que tu fermes le bocal, toi. T'as à peu près autant de vie, toi. Sauf que la mouche, proportionnellement, a plus d'espace, toi. Je crois que je me serais foutu la gueule en l'air, hein. C'était bien parti pour, quoi. Jusqu'au moment où j'ai compris que mourir pour mourir. Autant mourir debout, le chien reprendre sa vie, quoi. Tu comprends ça? Et j'ai eu le temps de comprendre qu'en fait, que l'acceptation de la mort était à peu près la seule force que je pouvais assimiler pour retourner la situation. Je me mettais face au mur. Il y avait un petit point au mur, un rond, avec un petit truc clair au milieu. Et comme dit Maître Deshimaru, j'entrais dans mon cercueil. Je suis devenu à peu près aussi émotif qu'un militaire en mission. Vraiment. Et chaque jour, c'est un exercice de chaque jour, quoi. C'est une épuration, c'est le yoga qui m'a apporté ça. Du moins, je me suis servi du yoga comme un outil à cette époque-là. On pouvait rien faire. Je me suis enlevé tout moi-même. On pouvait pas me priver de quoi que ce soit, puisque j'avais besoin de rien. Je devais être immobile, en toute chose. Quand je dis immobile, c'est immobile intérieurement aussi, tu comprends? Pour pas qu'il y ait de prise sur moi, parce que tu n'imagines pas la prise qu'il peut y avoir quand tu n'as affaire à les hommes, 5 hommes, que tu ne vois que pendant des années, qui sont les maîtres sur toi, en uniforme. Les maîtres incontestés d'un lieu où aucun droit n'existe. Je suis devenu une arme. L'arme que je n'avais pas, je l'ai construite. J'étais devenu un véritable prédateur, sans problème. Sans problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un homme qu'on aurait pu qualifier de dangereux. Tu vois ? J'étais dans une vérité que j'avais construite chaque jour en moi, que j'avais. Le monde, c'était clair pour moi. Le monde était très dur et j'étais devenu aussi dur que tout ce qui m'avait entouré pendant toutes ces années, quoi. Et même bien plus dur. Ça faisait des années que j'avais commencé à gamberger à cette évasion-là. Et des années que je me préparais. Chaque fois que j'ai l'instruction, les choses se précisaient. À chaque fois. Je m'étais entraîné pendant un long moment quand on me fouillait pour aller à l'instruction, tu vois. Les matons se plaçaient toujours à la même place. 1, 2, 3, comme ça. Et moi, au milieu, je me déshabillais, ils regardaient mes vêtements. Mais j'avais une telle distance avec eux qu'ils n'osaient pas trop insister, tu vois. Et en fait, j'avais l'arme dissimulée dans le slip, mon double fond, tu vois. Et la procédure normale voudrait qu'ils tripotent le slip. Ils ont tendance à pas le faire, quand même. Et encore moins, là, tu vois. Donc je me suis déshabillé. Et j'ai collé les élastiques du slip, t'as le temps de réfléchir, tu vois. La façon, c'est que quand je le baisse d'une certaine façon, d'une façon très, très, très précise, il reste en cloche sur les cuisses. Et donc l'arme, elle est dans le creux de la cloche, en dessous, quoi. Là, j'ai un maton là, quoi. Et moi, je tourne au milieu tout en... Quand je me retourne complètement tout en... Vous voyez tout, et que je remonte le slip, et quand je remonte le slip, je tourne le dos à l'endroit où il n'y a personne. Mais c'était... C'est un ballet que j'ai répété des centaines et des centaines et des centaines de fois dans la cellule le soir, quoi. Avec ce faux slip, tu vois. Le mouvement très précis, une chorégraphie. Voilà, c'était ça. C'est une chorégraphie très précise. Fait que je suis parti là-haut avec ça. Et puis voilà, dans la salle d'attente, je l'ai sorti. Je l'ai placé là. Je suis parti au palais. Et il y avait toujours un mec qui disait... Chaque fois que j'avais l'escorte, c'était... Il mettait un mec de l'escorte, c'était un tireur d'élite, tu vois. Et lui, je savais que j'aurais un problème avec. Je le savais. S'il y avait un problème avec un époux, il était toujours là et je voyais le genre. La dernière fois, mais à chaque fois, je le testais. L'instruction précédente, je testais à chaque fois pour voir le mec, quoi. L'instruction précédente, à un moment donné, on attendait pour repartir. Et quand ils ont entendu la voiture arriver, quoi, leur voiture qui venait le chercher, il a dit, c'est une petite digression, mais il a dit, tiens, va le carrosse à son collègue. Et je me suis permis un sourire, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est le carrosse qui vous fait rire ? Alors, j'ai coché. Il n'a pas apprécié mon humour, mais il n'a pas été plus loin. Moi, je savais que l'instruction d'après, il allait avoir une surprise, tu vois. L'instruction d'après, il a eu la surprise. Normalement, je restais pas longtemps d'instruction. Mais là, il fallait que je reste longtemps pour que la nuit tombe. Alors j'ai commencé à répondre aux questions qu'on me posait, en disant n'importe quoi, en gros, hein, et même des vérités. Je m'en foutais. Et à un moment donné, la juge a montré un plan. Je me suis levé, j'ai roulé sur le bureau, j'ai sorti et j'ai pris. La porte de sortie, elle était là. J'avais un poulet qui était là, et celui qui était en face de moi, je l'appelais Moustache, quoi, dans ma tête. C'était celui qui me posait problème. Il commençait à sortir son arme en me regardant bien dans les yeux. Il m'a dit, vous ne sortirez pas d'ici vivant, monsieur Augeron. Je lui ai dit, tu bouges pas, toi, connard. Il dit, ça me garde à vous. J'avais vu aussi qu'il y avait un lien entre lui et la greffière. Un lien familial, peut-être. J'ai dit, tu poses, je glisse tout de suite une balle à mademoiselle Bella. Il a baissé son arme. J'aurais fait comprendre qu'ils allaient m'avoir. J'en dis je sors, je vais à la porte, et après c'est la chasse. Il y avait le sac de la juge qui était là. Et il y avait la clé de la porte était dans le sac, je l'avais vu précédemment, tu vois. Une fois que j'étais à la porte, j'ai récupéré, j'ai dit à la juge de prendre le sac, sortir la petite clé blanche là. Et je les ai enfermés dedans, quoi. Voilà.
Trois fois évadé, trois fois repris, Michel Vaujour a encore fait la belle hier soir en s'évadant du palais de justice. Chalon-sur-Marne. Pendant plus d'une heure, avant de prendre la fuite, il avait séquestré le juge d'instruction. Michel Vaujour avait été condamné pour vol à 15 ans de prison en 1976, Jean-Claude Perpère.
Il s'est enfui du tribunal de Chalon-sur-Marne où il était entendu pour toute une série de vols en main armée. Une évasion à la manière de Méry. Au bout d'une heure d'interrogatoire, Vaujour demande à se rendre aux toilettes où un complice avait dissimulé un revolver. Brandissant son arme, il prend en otage le juge d'instruction, Mademoiselle Blind, qui tente pendant une demi-heure de le raisonner.
On ne pouvait pas se rendre compte que c'était pas un pistolet. C'est-à-dire que c'était suffisamment bien fait, ton truc.
C'était, t'imagines pas. Suffisamment bien fait, non, puisque quand j'étais le palais de justice, il commençait à partir en vrille, le machin, tu vois.
Il glissait. Ah oui, c'était comme c'était du savon, hein, c'est ça?
Ouais. Et j'avais juste ajouté une petite cerise, c'était... Il a mis une culasse d'éjection. La éjection que j'avais fait avec un morceau de pile gratté, quoi, ce qui fait côté métal, toi. C'est le petit piron, là. Côté métal pour la culasse d'éjection. J'avais fait un chien pour le... Le chien, c'était un coupe-ongle bricolé avec un bout de... De lamelle de boîte de conserve comme ça qui clac clac. 10 minutes avant, j'ai demandé aux toilettes. J'étais aux toilettes pour pisser, c'est tout. Mais sauf que je me suis enfermé dans le trim, ils ont poussé la porte derrière moi et dans leur tête, automatiquement, ils sont dit de récupérer l'arme dans les toilettes. Classique. Quelque temps, il y avait. Je crois que c'est Jacques Mesrine qui venait de s'évader comme ça. Toi. Dans leur toilette, récupérer des armes. Et donc. Le poulet automatique, 1 et 1, c'est 2, quoi. Donc ça a crédité mon âme, tu comprends? C'est important. Quand je me suis évadé, j'ai cru vraiment que j'avais gagné, quoi. Et je l'ai compris plus tard, bien plus tard, bien plus tard. C'est qu'en vérité, j'avais perdu quelque chose d'essentiel, c'était la capacité de la joie. J'avais repris une liberté qui n'était pas nécessairement joyeuse, toi. Vraiment. Je savais pas aimer.
Le retour à chaque fois à la vie civile, on va dire, c'était pas un problème. Tu t'es réadapté très vite, ouais.
Ah, il m'adaptait très vite.
Ouais. À la liberté.
On s'adapte infiniment plus à la liberté qu'à la prison, vachement rapidement, la liberté. C'est vraiment pas... Ça, c'est vraiment le truc. Et en plus, c'est... T'es dans l'action. J'en étais à cette phase où, pour moi, c'était le boulot. C'était plus vraiment un choix, dans la mesure où il n'y avait pas de retour en arrière possible.
En fait, c'est la première fois que tu possèdes vraiment une arme. Et là, tu vas retrouver Gilles avec qui tu vas monter au braquage.
Pour le juge, je pouvais être sa main et ses yeux, quoi. Et lui, il était ma main et mes yeux. Ce que mes yeux ne pouvaient pas voir, ce que ma main ne pouvait pas faire, il était là. Que ses yeux ne pouvaient pas voir et que sa main ne pouvait pas faire, j'étais là. Même pendant la période de grande cavale, il m'est arrivé de sentir qu'il n'y avait pas de sens, quoi. Je veux dire, j'avais besoin d'un sens pour vivre, tu comprends? Parce que quand tu avais dû vivre comme j'avais vécu toutes ces années, il fallait qu'il y ait un sens pour que ça en vaille la peine. Quand je dis peine, c'est vraiment le mot peine. Où s'en va la douleur. Voilà, on peut dire comme ça. Eh bien, il m'est arrivé parfois, donc, pendant ces années-là, où j'avais tout, en définitive. Tout, matériellement. Il manquait quelque chose. Et peut-être que... la seule chose qui faisait vraiment vibrer, c'était la mort. C'était le défi, la mort. Donc il m'arrivait parfois, quand je ressentais trop ce vide, de partir. Ou même de, dans certaines affaires, de, carrément de provoquer, quoi, provoquer les situations, pour amener les situations extrêmement limites, où j'aurais pu être tué vraiment sans problème, quoi. Mais j'aimais ces instants-là, quoi. J'étais dans, en vérité, dans la toute-puissance, quoi. Que ce soit dans... Il n'y avait jamais assez, de toute façon. C'était même pas pour l'argent. C'était même plus pour l'argent. Tu vois ? C'était pour le goût de... Une des choses les plus satisfaisantes, c'était pas de compter l'argent. C'était de planifier une action. Qu'est-ce que c'est que le braquage ? Le braquage, c'est d'un seul coup, tout est normal dans la vie, et d'un seul coup, tu es maître absolu de ce petit espace-là, pour un temps déterminé. C'est ça. Ça veut dire contrôler absolument les choses. C'est ça, le braquage.
Quand tu fais un braquage, quand tu prends en otage des innocents, tu sais que tu mets à un moment donné en jeu la vie d'une dame comme ta maman qui aurait pu rentrer dans la banque.
Ah, mais je ferais pas de mal à une dame comme maman qui rentre dans la banque.
Non, mais en même temps, tu ne sais pas comment elle va réagir. C'est-à-dire que tu ne sais pas, à un moment donné, si prise de panique, elle ne peut pas faire une crise cardiaque. Tu vois, il y a plein de jeux. Est-ce que c'est des choses que tu as intégrées ?
La crise cardiaque, non. Je ferais pas de mal à qui ne met pas ma vie en danger.
J'ai l'impression que c'est des morts que tu aurais sur la conscience.
Ce sont des choses que je sais aujourd'hui. Avant, je ne les savais pas dans la mesure où c'était ma norme. Par exemple, donc, sur une affaire, il y a un policier qui a pris une balle dans la tête. Moi, je te raconte l'affaire en deux mots. On fait l'affaire, pas de problème, on s'en va. Si ce n'est que le mec qui est avec moi, la moto, il a oublié un des sacs avec l'argent sur le parking. J'ai fait demi-tour, on y est retourné, et donc on récupère le sac sur le parking, pas de problème, personne n'y avait touché, on repart avec. Mais bien évidemment, en arrivant, en reprenant la route, quoi, c'était notre retraite, c'était notre ligne de retraite, on croise... les poulets. Et il va se mettre en travers de la route. Et moi, je passe, j'accélère, quoi. Et au moment où j'accélère, j'entends tirer, tu vois. J'ai le casque, je bombarde. Et quand j'arrive à la planque, j'ai à l'autre, je dis, putain, je suis à la gueule. L'autre, il me dit, non, c'est moi. Tu vois. Mais je savais pas, moi. Il n'y avait même pas eu besoin, en vérité, tu vois. Il n'y avait pas eu besoin, c'était pas la peine, j'étais passé. Et bon. Et bien plus tard, moi, quand je t'ai arrêté, ils m'ont mis cette affaire-là sur le dos, quoi. J'ai dit que c'était pas le policier, que c'était pas l'homme qui avait été blessé, là. J'ai dit que c'était le policier. Tu vois, toujours ce truc de fonction, je voyais pas les gens derrière la fonction. Chez les matons, c'était pareil. Chez les matons, c'était plus que ça. C'était vraiment des représentations très abstraites. Tu vois, il y avait l'uniforme. Et après, je sais pas ce qu'il y avait.
C'est lors d'un braquage, en fait, que Gilles est mort pour financer l'évasion.
Et comme c'était sa sœur qui pilotait, la femme, il voulait que ça soit nickel, quoi. Et il a décidé de monter au braquage pour financer l'après-évasion, c'est-à-dire que tout devant nous soit facile, c'est-à-dire qu'on ait tout. On est resté 20 jours sans savoir s'il était mort. S'il faisait partie des morts ou des survivants. À ce moment-là, pour te situer l'ambiance, tu sais ce que c'est de garder le silence 20 jours pour une mère, une sœur ou un ami sur l'autre qui est mort, peut-être brûlé, carbonisé, là c'est le truc, on ne sait pas s'il fait partie des morts ou des vivants, quoi. Et là où était la joie, où tout devait se remettre en place, ben c'était le massacre, quoi. Mais on en était à... On veut, à un moment donné, à précipiter l'action de la santé. Tu vois ? À la précipiter, à y aller tout de suite. Pour que je sorte tout de suite. et qu'on aille récupérer son corps à la morgue, quoi. Tu vois ? Faut qu'on l'enterre, nous, toi. Mais Nadine, à l'époque, avait pas trop choqué émotionnellement. Elle était trop choquée émotionnellement, et donc... c'était danger, toi, au niveau pilotage, c'était danger, quoi. Sur place, ça devait être très précis. Elle était trop stressée, quoi. Ça aurait été une catastrophe. Mais c'est quand même ce qu'elles m'ont demandé, quoi.
Vous voulez récupérer son corps pour l'emmener...
Oui. L'emmener nous, l'enterrer nous, quoi. Tu comprends ? Puis on disparaissait tous. C'est pas vrai. J'ai vu son corps sur le journal. Tu vois ? Enfin, j'ai vu un corps, je savais pas que c'était lui. J'ai su que c'était lui plus tard, quoi. Il était au milieu de la route, il était tout crouillé, brûlé de partout, quoi. Un morceau de charbon de bois, presque.
Je pouvais pas, moi, arrêter ce que j'avais entamé. Donc, le mec le plus proche de moi était mort pour m'aider à accomplir ça. Et moi, une fois qu'il était mort, lui, j'allais poser les armes, j'allais m'asseoir et attendre que ça se passe. C'était une trahison, c'était un truc que je peux pas. Et à l'époque, ils sont morts pour rien.
Un prisonnier de la santé fait la belle en hélicoptère.
Évasion spectaculaire ce matin à la prison de la Santé en plein Paris. Michel Vaujour s'est fait la belle en hélicoptère.
Un prisonnier de 34 ans s'est fait la belle par la voie des airs en plein cœur de Paris ce matin.
Du cinéma à la Santé avec l'évasion spectaculaire d'un détenu qui purgeait une peine de 18 ans de réclusion criminelle.
On ne peut pas rêver aux exploits de Zorro et d'Arsène Lupin et ne pas d'abord être impressionné par l'évasion spectaculaire qui a eu lieu à la prison de la Santé ce matin.
Du cinéma parce que tout y était. L'hélicoptère, le toit de la prison, et même une femme qui semble être au cœur de l'opération.
L'opération avait été préparée dans le plus pur style des superproductions à l'américaine. Hélicoptère aux plaques maquillées, pilote ayant coupé toutes les communications avec la police, minutage précis.
En vol stationnaire au-dessus de la Santé, un seul des deux hommes s'agrippe au patin de l'appareil. Michel Vaujour est libre. Nadine, sa femme, pilotait l'Alouette 2.
Michel Vaujour quitte la prison par le ciel, sous les applaudissements des autres détenus.
Mais d'abord, l'évasion en hélico, c'était la marque de l'échec de... Mais de tous les mecs en qui je croyais, quoi, en fonction des valeurs de ce moment-là, quoi. Puisque tous se défaussaient, etc., etc. Et qu'en définitive, c'était une femme que j'avais parfois négligée justement pour ces amitiés-là, que j'estimais plus importante. Qui allait, elle, mener l'action que ces hommes devaient mener, eux. La forme de l'action devait être surprise, rapide, efficace. Et efficace, surtout aussi au niveau psychologique, même pour Nadine, quoi. Ça, c'est un angle mort. Tout ça, c'est un angle mort. L'appareil reste un angle mort, toujours, tu vois, d'accord ? Le principe, c'était ça. Tac, tac, tac. Toute l'opération se passe là, dans l'angle mort, où je suis là. J'escalade là, etc. J'écarte le bâton. Là, il y avait un immeuble, là. Il y a une femme qui est venue dans l'immeuble, une femme amie. Elle est descendue. Elle a appelé une cabine téléphonique à côté de l'héliport, où Nadine attendait avec un ami. Elle a dit, il est là. Au cas où j'aurais été transféré, quelque chose comme ça. Elle est remontée, elle a collé un papier. Ce papier rouge là, ça signifiait OK, ça y est, ils sont partis. L'appareil arrive, et l'appareil lance un appel d'atterrissage forcé, tu vois. C'est-à-dire que l'appareil, d'un seul coup, va disparaître des radars, OK. Et l'appareil disparaît des radars, c'est gênant. Mais il faut leur donner une raison pour laquelle il disparaît des radars. Nous, on a besoin de 3 minutes, pas plus, tu vois.
Quand Nadine, elle jette le sac ?
Oui, c'est un matériel très précis, positionné de façon très précise dans le sac. Le sac en lui-même, il ne faut pas l'ouvrir, le sac, on ne sait jamais, le fermeture éclair, on ne sait jamais, tu vois. Le sac, il est fermé comme ça, avec deux élastiques, c'est tout. Deux gros élastiques, tu vois. Là, je sais que la première chose qu'il y a dessus, c'est l'arme, tu vois, parce qu'il y a quoi? Il y a les prisonniers autour de moi. Les prisonniers, c'est pas nécessairement mes amis. J'ai tourné sur moi-même avec l'arme à la main, et... le maton s'est collé au mur, les mecs, ils sont tous écartés. Comment j'arrive à monter sur toi?
Oui.
Une canne télescopique. Tu ouvres ta canne, tu la sors. Je fonce, j'escalade. Il y a mon pote qui me passe la main, je prends la main, je m'assois sur le patin, et go. Et l'arme que j'ai dans la bouche, à ce moment-là, j'escalade avec le calibre dans la bouche, quoi. Et l'arme que j'ai dans la bouche, à ce moment-là, je la jette dans la cour. Et le mec qui est dans l'appareil, il jette son arme aussi. Mais les deux armes sont factices, quoi. Ça leur suffit. C'est une opération militaire, apparemment. Mais il n'y a pas d'armes. La forme de l'action a été déterminée, c'est les armes fausses. De façon à ce que il y ait un minimum de délit pour elle. Tu comprends? Il ne fallait pas qu'elle se retrouve dans la situation de non-retour dans laquelle moi j'étais. Tu comprends? Il fallait que ça reste léger.
Comment Nadine, elle s'est préparée?
Nadine faisait quand même partie de notre monde. Hein. Bon, bien sûr, jamais elle était montée sur des affaires ou quoi que ce soit, quoi, ouais, ça, ouais. Non. Mais c'est une ambiance, quoi. C'est une ambiance. C'est... On était une famille. Tu comprends? On était vraiment une famille. Il y avait Lina, Gilles, Nadine, moi, tu vois. Gilles était mort en essayant de m'arracher moi, quoi. Enfin, pour que j'en sorte.
Est-ce que ce que tu dis là explique que aujourd'hui encore, 20 ans, 30 ans après, tu sois encore très ému?
C'était mon pote.
Et c'est comme si le deuil ne s'était pas fait. Hein?
Non. J'ai une difficulté à faire le deuil des choses. Oui. Et encore plus des gens que j'aime. Le seul qui ait vraiment été à la hauteur de ce milieu, tel que moi je le voyais, tel que moi je le rêvais, bien c'était... ça a été Gilles, quoi. Ça a été Gilles. Quand je me suis évadé de la santé, par exemple, il y a quelques hommes qui ont bien fait de mourir avant, quoi. Ou de partir en vacances. Ouais, c'est vrai. Les choses que je dis peuvent être dures comme ça, parfois. Mais c'est ce que j'étais. C'est ce que j'étais. Je me souviens d'un homme, notamment. J'ai été dans un bar où il y allait habituellement, je savais qu'il y allait. Je suis arrivé en moto, j'ai posé la moto. Je suis descendu. Je suis rentré dans le bar, j'ai regardé un peu partout. Il n'était pas là. S'il avait été là, je l'aurais battu comme un chien, quoi. Simplement parce qu'il n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il avait à être. Simplement parce qu'il n'avait pas assumé ce qu'il avait à assumer vis-à-vis de moi. Et c'était pas gratuit, parce que moi, par le passé, ce mec-là, je l'avais sorti d'un truc très, très, très chaud. Et lui, il m'a pas rendu l'appareil. C'est des exemples comme ça qui font que... il y a des illusions. Je commence à comprendre que la fraternité n'existe pas, quoi. Je découvre des tas de choses, quoi. Avant, c'était presque des choses de l'ordre, presque à l'ordre de devoir, dans mes relations amicales, quoi. Il y avait toujours cette notion presque de règles. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est juste peut-être vraiment des relations amicales. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qu'un feeling, tu vois, qu'une affinité, sans autre arrière-fond comme qui participait à des choses de mon passé, quoi. Qui était... la fraternité d'armes, entre guillemets, tu vois. Ça, c'est vraiment une bonne découverte.
Si tu avais un jour un fils, un neveu, qui s'engageait dans cette voie où tu t'es engagé, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je suis qui pour lui donner de leçons? Je suis qui? Je crois que je lui dirais, petit con, vas-y si t'as les couilles. Mais franchement, tu sais pas le prix que tu vas payer, quoi. Tu sais pas. Si t'as pas les coups jusqu'au bout, tu mourras la gueule pleine d'amertume. Alors, vas-y si tu veux. Mais t'as pas notion, t'as pas notion. On n'est pas au cinéma.
une cavale en hélicoptère qui se termine par un hold-up banal. Michel Vaujour, qui avait réussi la belle du siècle il y a tout juste 5 mois en s'évadant de la prison de la Santé, est tombé hier en plein Paris.
La police avait perdu sa trace depuis 4 mois, depuis sa spectaculaire évasion de la prison de la Santé.
C'est quelques secondes après avoir tenté une sortie en force de la banque avec un otage que la fusillade a éclaté.
Ce soir, Vaujour, une balle dans la tête, est entre la vie et la mort dans un service de réanimation d'un hôpital parisien.
J'ai l'impression que, de manière étrange, t'as cherché toute ta vie ce rendez-vous-là.
Tu sais que j'y repensais souvent, je crois. Je sais pas si j'ai cherché ce rendez-vous-là, mais en tout cas, lui m'a trouvé.
De manière inconsciente, t'as dit, bien
ouais,
sûr. Hein, mais...
Je crois que c'est peut-être pas toute ma vie. Je crois que le suicide que j'ai pas accompli, le jour où j'ai réalisé le gâchis dans lequel j'ai mis ma vie, avant la période où la solitude, etc. Quoi. Je crois que, cette mort-là, qui ne s'est pas accomplie, si ce n'est presque de façon initiatique, mais je crois que c'était toujours en moi. Et j'ai vu des morceaux de verre passer à côté de moi, sur le côté. Et dans le même temps, un coup de masse sur la tête, mais un truc. De la tête au doigt de pied, tu... Alors je venais prendre une balle dans la tête, quoi. J'avais été au bout de tout, je m'étais planté parce que j'étais en train de crever, toi. J'avais mal joué le jeu, toi. Je m'étais planté certainement, mais... Mais je m'étais pas... J'avais pas failli à moi-même, quoi. Et j'ai entendu une voix qui disait « Lui, c'est pas la peine, il est déjà mort. » La sensation que j'ai eue, c'était que moi, là, en train de crever sur le trottoir, c'est que j'étais plus vivant que lui, il l'avait jamais été, quoi. Pas t'expliquer.
Est-ce que tu te souviens après ?
Après, c'est je me suis réveillé à l'hôpital. Ce moment très, très, très désagréable.
T'étais pas heureux à ce moment-là d'être en vie ?
Ah, c'est ce qu'on appellerait un doux euphémisme, tu vois. Putain, non.
T'avais le sentiment de l'échec à ce moment-là ?
Plus que l'échec, j'avais surtout le sentiment que l'échec absolu, c'était d'avoir survécu. Survie, j'étais bourré de tuyaux et hémiplégique. C'est quand même difficile de s'évader de son propre corps, quoi. Tu vois, là, ça pose un problème, quoi. Les murs pour plusieurs dizaines d'années, la prison, et prisonnier du corps en plus, toi. À ce moment-là, mes rêves les plus fous, quoi, c'était que peut-être un jour, j'en marcherais avec des béquilles. Mais vraiment, les rêves les plus fous en mettant tout ce que je pouvais avoir dans les tripes, quoi. Il n'y avait pas de limite non plus, là.
Comment t'as fait pour te rééduquer ?
Je pratiquais ce que je pourrais appeler un genre de technique de voyage intérieur. C'est le retournement de la conscience. C'est-à-dire, toute ta conscience, la conscience, c'est pas... La conscience, c'est pas conscience de... Hein, c'est pas... Tu l'emmènes dans la jambe, dans le pied. Et tu cherches ce que tu peux percevoir. Tu commences à sentir un petit truc, tac, tac. Contracte un petit muscle qui est là, qui répond. Et de sollicitation en sollicitation, au fil du temps, au fil des jours, au fil des heures, au fil des jours, des semaines, des mois, des semaines plutôt, par effet de sympathie, quoi. Tu réactives. Tu réactives pas là parce que la blessure n'est pas dans le muscle. La blessure est là, dans les morceaux, dans les connexions qui sont effacées. Et petit à petit, j'ai repris possession du pied. L'humanité, je t'assure que je l'ai réappris en rampant par terre, tu vois. Mais en définitive, là aussi, je gardais précieusement tout ce qui m'était fait, tout le déni d'humanité qui m'était donné. Et pour trouver le sens, la force dont j'avais besoin, parfois, souvent, en tout cas toujours là, dans ma tête. Mais oui, parfois et même souvent, j'entamais des simulacres de pendaison, de la promesse de la possibilité d'une dernière issue, de l'ultime issue, même de l'ultime évasion. Quoi.
Et d'un choix.
Il me restait cette liberté-là, pour savoir qu'il y a une fin possible, une fin qui m'appartient à moi et que personne ne peut m'enlever.
À chaque transfert de Michel Vaujour, c'est le même déploiement de force
et pour la même raison, la psychose de l'évasion. Durant toute la lecture de l'acte d'accusation, Vaujour, qui a 45 ans, a déjà fait 21 ans de prison, n'a cessé de regarder fixement le plafond. Comme épuisé d'entendre à nouveau sa vie défiler dans un prétoire, comme désespéré de savoir qu'il encourt aujourd'hui 30 ans de réclusion criminelle, en plus des 17 ans qui lui restent encore à faire.
La mort, là, elle était bienvenue. En me battant pour retrouver ma liberté, quoi. Mais en tout cas, mes idées étaient de cet ordre-là. C'était d'une implacabilité que tu peux pas imaginer, quoi. Et qui aujourd'hui, à moi-même, me fait peur de repenser à ça, quoi. Mais l'homme que j'étais à ce moment-là, c'était ça. Je défendais ma peau, c'est tout, et y a rien qui pouvait m'en distraire. Tu raisonnes 4 heures sur 24, seul. Tu comprends? Seul. Ton humanité se résume en gros à ce que le mec qui t'ouvre la porte, il te serve une gabelle de merde à travers une grille, toi. Il referme la porte. Et clac, clac. Et les quatre murs, c'est tout. Et t'as le temps de penser, t'as que ça à faire. Penser. T'as les idées, les pensées qui rebondissent contre les murs, toi. Qui te reviennent, qui traversent la tête, et toujours les mêmes. Après, ton cerveau n'arrête même plus de penser, il peut plus arrêter de penser, ton cerveau. Y a rien qui t'en distrait. Et tu peux pas t'en distraire. T'es prisonnier de ça. Je suis pas sûr que tu sois quand même toi-même. Je sais même pas si t'es quelque chose ni quelqu'un, quoi. Tu prends le facteur temps et tu multiplies ça à l'infini, quoi. Sans rien entre les deux. Et tu verras, très vite, tu ressembles plus à ce que tu es.